RMC.
Oh, c'est gonflé. Oh, c'est gonflé. Oh!
Basket time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie.
C'est fini. Champion d'Europe de basket, messieurs, dames. Jacques Monclar est aux anges. On est tous aux anges.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC, à télécharger tous les mardis sur rmc.fr avec la Dream Team, Stephen Brun, Frédéric Weiss et Arnaud Valadon. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot.
Salut à tous.
Bonjour Arnaud. Bonjour Pierre, ça va?
Ça va bien, merci. Vous vivez des beaux playoffs quand même, non? Il y a des belles séries,
mal,
hein, des très belles séries.
Il y a des belles séries, il y en a des moins belles.
Alors Boston, Cleveland, bon, on attendra peut-être la finale à l'Est pour s'intéresser à Boston, mais il y a quand même une série, des séries très indécises, notamment ce Minnesota-Denver, ce Dallas-OKC, puis même Indiana-Knicks. Hein.
Oui, oui, très belle série.
C'est toujours plus relevé à l'Ouest, on est d'accord?
Bien sûr, il n'y a même pas photo, il n'y a pas de comparaison possible.
Alors c'est un spécial demi-finale de conférence et on va faire un focus sur deux séries en particulier. D'abord celle des Knicks. Les Knicks sont-ils trop limités? Ce sera notre premier débat, messieurs. Et puis sur ce Dallas OKC, avec un joueur en particulier qui va faire débat. Kyrie Irving, est-il toujours un crack de la Ligue selon vous? Fred,
c'est une bonne question.
C'est une bonne question, t'as pas la réponse Arnaud?
Si, j'ai une pseudo-réponse.
Moi j'ai envie de dire oui quand même, ça reste Kyrie.
Moi j'ai une belle réponse.
Steve, toi t'es un supporter des Mavs.
Un supporter
des Mavs dans le cœur.
Oui, tout à fait.
Je pense que quand on pose cette question et que la réponse n'est pas unanime et spontanée, c'est qu'il y a un petit souci quand même, non?
Peut-être qu'il y a plus gros que lui dans sa franchise.
Ouais, après, ça dépend de quelle posture tu prends, celle où la Terre est plate ou t'es à l'autre bout du globe.
Alors, dans le monde où la Terre est plate, Kyrie Irving est une méga star, le sait. Hein. Dans la partie historique, vous allez me parler des meilleures et des pires équipes des Knicks. Vous en choisissez une et vous la décortiquez. Peut-être pour rappeler aux plus jeunes ce que c'est aussi cette franchise, qui a une longue histoire, une histoire faite de plus de défaites que de succès, mais qui a connu un des plus grands joueurs de l'histoire, le plus grand pivot Pat Ewing, Fred.
Oui, un pivot.
C'est ton idole ?
Oui, j'avais des cassettes vidéo à l'époque de Pat Ewing et tout. Oui, bien sûr, j'ai rêvé de.
On
de
en ces parlera mots. Tout à l'heure, mais d'abord, on démarre par les Knicks 2023-2024.
Picked up by Brunson. Brunson inside the heart. Hart banks it in.
Alors, on démarre à l'Est avec cette question. Les Knicks sont-ils trop limités après avoir sorti Philadelphie, ce qui était déjà une première surprise? Les Knicks ont une occasion en or de rejoindre la finale à l'Est en affrontant Indiana. Mais sur les deux matchs à l'extérieur, à Indiana, ils n'ont pas montré le profil d'une grande équipe. Manque de réussite lors du match 3 et explosion en vol lors du match 4. Deux matchs joués sans Anunoby. Et alors sans Anunoby, la stat est terrible. Hein. C'est 26 victoires et 5 défaites seulement quand il est là. C'est 13 victoires et 16 défaites lorsqu'il n'est pas là. Est-ce qu'ils sont, quoi qu'il arrive, limités, Anunoby ou pas Anunoby, Steve?
Écoute, oui, alors, si c'est pour dire qu'Anunoby est un joueur important dans le dispositif de Tom Thibodeau, là je pense qu'on est unanime pour le dire et que c'est un énorme manque en termes de densité athlétique et ça fait une rotation en plus parce que les Knicks sont sur la jante. Maintenant, retrouver New York déjà deuxième de la saison régulière, pour moi c'était hors norme déjà.
Inespéré.
Pour eux, c'était inespéré d'avoir l'avantage du terrain quasiment jusqu'au bout dans la conférence Est. Après, moi, je vais être très honnête avec vous. Alors, il y a des problèmes de blessés. Hein. Robinson s'est fait opérer de la cheville. Bon, il va pas revenir. Bogdanovic est out.
Randle, depuis le début.
Julius Randle qui est out depuis le début. John Brunson qui, je pense, n'est pas à 100%.
Il
a mal au pied. Mais cette équipe des Knicks, elle a du cœur. Elle a une âme. Surtout au Garden. Elle a des joueurs vaillants. Mais quand tu la regardes jouer, je sais pas ici il y a que moi, c'est moche en fait, c'est dégueulasse les Knicks.
Il y a rien en fait,
du basket. Il se passe rien.
C'est donne la balle à Jalen.
Exactement, tout tourne autour de Jalen Brunson qui dribble, qui dribble, qui dribble, qui dribble, qui dribble, qui dribble, qui dribble,
qui dribble. Il y a aucun quand même qui est capable de faire des trucs de fou.
Il a des crises de chaleur à 3 points sur du transition et de la jeu rapide, du jeu rapide où il met dedans. Mais le jeu proposé par New York, c'est la bagarre, c'est la boîte à outils, ça a du cœur, c'est vaillant. Mais je sais pas Fred, c'est pas terrible non?
Ah non, mais c'est évidemment pas terrible, bien sûr, c'est bon. honnêtement, c'est même presque chiant. Parce que quand tu regardes, tu sais, c'est Brunson qui va avoir le ballon, il va faire la décision. Soit il va marquer, il va provoquer une faute, ou il va faire un drive and kick sur DiVincenzo, par exemple. Et si c'est raté, Josh Hart va prendre le rebond pour redonner à Brunson pour refaire la même chose. C'est exactement ça le jeu de New York. Mais est-ce que pour autant, ils sont limités? Ben, je sais pas, non. Ils ont construit cette équipe comme ça. Ils ont beaucoup de cœur, je suis d'accord. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire que cette équipe limitée, parce qu'il manque Randle, parce qu'il manque Anunoby, parce que de Mitchell Robinson, franchement, il est pas là, mais il est bien remplacé par Hartenstein. Mais concrètement.
Ils ont trouvé des mecs quand même un problème, des Hartenstein, des Alec Burks,
DiVincenzo.
Incroyable. Ça, c'est une histoire quand même.
Le seul mec que j'ai vu entrer sur le terrain et être complètement perdu, c'est Jericho Sims. Qui lui, quand il est rentré, il est passé à travers.
Il est dans les jeux vidéo, normalement.
il est à fond dans les jeux vidéo, apparemment, mais en tous les cas, c'est le seul. Sinon, tu sors un mec du banc, McBride qui met des
McBride,
points.
McBride qui met des points.
Joué du premier tour contre les Sixers.
Precious Achiuwa, quand il est sur le terrain, il est bon aussi. Moi, franchement, je trouve ça extrêmement fort de la part de Thibodeau, avec un effectif, effectivement, avec peu de talent, parce que quand t'as pas Randle, t'as pas une il te manque quand même une grosse option offensive. Mais concrètement, c'est vrai que c'est chiant à voir. Mais par contre, quand tu les vois défendre, quand tu les vois jeter sur tous les ballons, tu peux être que amoureux de cette équipe.
Ils transmettent des émotions.
Et c'est ça qui plaît justement au public et à cet ADN de New York, c'est se mettre les fesses par terre, jouer avec énormément de cœur, outre Josh Hart. Vous allez peut-être la faire, Stephen.
Non, on va pas la faire à chaque fois qu'on parle.
Mais c'est de voir comment cette équipe se bat et qui correspond tout à fait aussi à l'identité des Knicks. C'est pas le showtime des Lakers comme on a connu. L'ADN, c'est vraiment ce basket un petit peu de col bleu, même si ce sont des cols blancs qui sont au Madison Square Garden. Et donc, ce qui fait que cette équipe est rendue très attachante quelque part. Et,
elle est plus attachante que belle à avoir joué. Ça, c'est clair. Elle est beaucoup plus attachante que belle à avoir joué.
Ouais, mais alors vous dites chiante à avoir joué, mais moi, les rares matchs que j'ai vus, les quelques matchs que j'ai vus, je me suis régalé parce qu'il se passe plein de trucs. Parce que c'est serré, parce qu'il y a de la défense, parce que tu as des héros inattendus, parce que tu as des crises de chaleur, que ce soit Brunson ou DiVincenzo. Moi, je ne suis pas un spécialiste basket, je ne vais pas décortiquer la tactique, le jeu.
Ouais, mais
tu aimes
le beau jeu, en fait c'est là que je ne comprends pas. Pierre, tu parles toujours de beau jeu, tu ne peux pas dire que le jeu
collectif de New York,
c'est pas ouf. Non, les joueurs sont fantastiques.
Non, quand tu me dis je parle de beau jeu, moi, je ne parle pas de beau jeu parce que je n'en suis pas capable. Parle de beaux joueurs, il y a des joueurs intéressants. Tu vois, on évoquait la semaine dernière Tatum, évidemment, je l'aime parce qu'il est beau à voir jouer. Mais le jeu collectif, si moi ça me parle moins, je suis moins un spécialiste. En revanche, les matchs des Knicks, contre Philadelphie, j'ai pas déscotché. Le match 3 contre Indiana, il était incroyable ce match.
Mais c'est ce qu'on dit, c'est sur la maillotche, c'est sur l'envie, c'est sur l'énergie qui sont hyper intéressants. C'est pas sur le jeu développé en fait.
Après, si tu. Moi, je trouve qu'ils sont trop justes pour répondre à ta question, pour voir plus loin, en fait. À partir du moment, à un moment donné, il y a une réalité dans le basket. C'est que tu existes, voilà, par Butler, par l'énergie, par Brunson, qui fait des playoffs hors normes et fantastiques. Mais à un moment donné, quand, pendant 40 minutes, tu mets Josh Hart et son 1m93 sur Pascal Siakam et son 2m5 ou 2m6, ne sois pas étonné qu'à la fin, tu te fasses manger au rebond offensif, que Indiana ait des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes chances. C'est la réalité du basket et c'est pour ça que cet effectif Hartenstein, exceptionnel, il fait des playoffs magnifiques dans le dévouement, dans le don de soi-même. Mais il est tout seul. Il est tout seul. Donc à un moment donné, il n'a plus de jus parce qu'Indiana, c'est Siakam, c'est Miles Turner, c'est des mecs qui sont grands, c'est des mecs qui sont vaillants. C'est qu'à Indiana, ils ont trois garçons qui se relaient sur Brunson. Et pourquoi Brunson est sur la jante? Parce qu'il prend Nesmith, parce qu'il prend McConnell, parce qu'il prend Numbar plein fer.
Enfin, celui qui préfère, c'est Nesmith sur lui.
Oui, oui, oui. Mais pour faire souffler, il prend trois mecs différents, donc il l'épuise. Et donc à un moment donné, Brunson, il ne voit plus rien. Il voit trois cercles, il prend plus les bonnes décisions. Manque de lucidité.
Non, mais c'est clair.
Donc il y a une réalité.
Il a trop le ballon dans les mains, mais en même temps, sans le ballon dans les mains de Brunson, tu fais pas la même saison non plus.
Après,
donc,
ils sont 4-2. Ils sont 4-2. Moi, j'ai
ils
pas.
Ils sont 2-2, mais la quatrième, elle est vilaine. Elle est vilaine, la quatrième.
Oui, bon, d'accord.
Oui, mais elle a un avantage.
Elle a reposé les mecs.
Elle a reposé les mecs. Quand tu vois Josh Hart qui joue que 23 ou 25 minutes, je sais plus exactement, tu te dis, par rapport aux 48 minutes qu'il faisait avant, tu te dis, ce match-là, il s'est un peu reposé, ils vont être un peu plus frais et ils vont revenir en Madison Square Garden. Donc je me dis qu'ils peuvent mettre la pression.
Et puis, si tu fais une comparaison football, c'est un peu l'OM. Ils sont sur la jante. Au Garden, porté par les
Ferguson
de la salle. Je suis pas d'accord parce que le match 3, je suis désolé, mais Indiana, ils ont un coup de shoot.
Qui met un tir qu'il doit jamais mettre. Oui.
Un shoot qu'il doit jamais mettre et qui même lui, il était presque étonné de le mettre.
Parce que juste avant, il en a deux grands ouverts dans 1-0 degré qu'il met pas.
Alors, sachant que oui, mais il menait quand même. Oui, ça plie le match, le shoot de Numbar, mais ils sont devant quand même.
Oui.
Donc il fallait.
Non, ils sont à égalité.
Non, ils sont devant, je crois.
Non, ils sont à égalité, ça leur donne +3 et ça plie le match.
T'es sûr à combien de pourcents?
À 98%.
Fred, t'es sûr à 2% toi ?
Ben ouais. C'est moi qui l'ai fait le match.
Je t'ai juste mis un coup de pression parce que ça se trouve c'est toi qui as raison. Hein.
Non mais en tous les cas, effectivement, ce
jeu-là, il est incroyable. T'as plus 1 et ça fait plus 4 et que c'est
ouais,
terminé.
Il me semblait que c'est ça aussi moi, mais...
Ok, bah vous avez peut-être raison. Par contre, si vous avez tort...
J'ai peut-être tort, j'avoue.
On fera un truc pour vous punir la semaine prochaine.
Mais voilà. Alors, tu sais, on parle beaucoup des temps de jeu. Sur le premier tour, Brunson, c'est 44 minutes. Josh Hart, c'est 46 minutes.
Après, est-ce que Thibodeau a d'autres solutions ?
Non.
Parce qu'on lui a reproché souvent son coaching, mais là,
par faire jouer l'intendant...
À un moment donné, il avait d'autres solutions qu'il n'a pas fait. Parce que c'est là quand tu mets Burks sur les trois derniers matchs, c'est parce que tu n'as rien d'autre, en fait, qu'un Udogi pété. Quand tu fais rentrer Sims, c'est que tu n'as personne d'autre. Donc là, il est... Mais moi, je vais être curieux de suivre dans les années qui viennent ces garçons pour savoir dans quel état
ils arrêtent la fin de saison tous hein. Parce ils ont dit que c'était leur
parce que, rappelez-vous le background des Bulls, Lou Holdeng, Joakim Noah, Derrick Rose qui ont aussi fait des campagnes fantastiques avec Tom Thibodeau ils sont allés très loin et ils ont tous pété en vol. Alors quand t'es joueur, tu penses pas, t'es content de jouer. Josh Hart, je pense qu'il est content d'être sur le terrain, jouer 46 minutes, faire des 18 rebonds. Bon, un mec qui fait un 93, j'ai du mal à comprendre comment ça arrive. Mais je vais continuer à suivre ces garçons-là, savoir le nombre de matchs qu'ils vont jouer et si combien de saisons ils vont faire encore dans la Ligue. Et
est-ce que vous leur voyez une chance de taper quand même Indiana ou pas ?
Oui, avec l'effet Madison.
Vraiment,
ils ont l'avantage du terrain. Ils viennent de se reposer un petit peu parce que le dernier match, c'était même pas un match, c'était une démonstration d'Indiana. Mm-hmm. Tu reviens au Madison. Les mecs sont un peu plus frais. Moi, je me dis que oui, pourquoi pas.
Après, Indiana, sur les deux premières rencontres au Garden, ils sont là. Ils sont pas loin de prendre le match. Je pense que les deux victoires à domicile leur ont fait du bien. Liberton remet le nez à la fenêtre. Il a été très bon. Mais là aussi, il l'effet à domicile. Et puis bon, il pouvait pas passer au travers d'une série complète comme ça.
Le match 2, il est bon.
Oui, très bon. Mais c'est pas cadeau, ce match, le match 5 au Garden, parce qu'Indiana, c'est une bonne équipe de basket, mine de rien. Très offensive.
C'est exactement ce qui leur convient pas. Oui. Ça prend dans tous les sens.
Exactement.
Donc ça les fatigue.
On n'a pas de nouvelles de la blessure de Gian Unobi.
Il est out, match 5.
C'est Ischio.
Out, match 5,
oui,
déjà.
Ouais. Ouais. Ischio, c'est compliqué, hein, déjà.
Out, match 5.
Bon.
Quand j'ai regardé, on était à 106 partout avant le 3 points de Newbard. Sur ce match 3.
Bah alors Fred,
t'as vu, on a tort.
Ben c'est pour ça qu'il y a 2%. C'est lié à 2%. Vraiment, ouais, il l'a appelé Newbard. C'est Nembard. Donc, est-ce que c'est le même joueur ?
C'est un autre match. C'est un autre match. Alors, Newbard, c'est un autre match.
Bon, un petit pronostic, un petit tour de table. Qui passe la série, Steve ?
4-3 Indiana.
4-3 Indiana.
Oh, ça veut dire que tu les vois gagner le match 7
au Madison.
Climatisation.
Ok. Arnaud ?
Je pense que ce match 4 a montré la bascule, donc 4-2 Indiana.
4-2 Indiana, Fred ?
4-3 Knicks.
Oh !
Ah, Madison,
qui va prendre un 4-0 Madison derrière face à Boston.
Vous respectez pas les Pacers ?
Après, ils vont prendre un 4-0 contre Boston.
Vous respectez pas les Pacers ?
Si, je respecte. Ah si, lui il a dit Pacers, moi j'ai dit Pacers. Et toi Pierrot ?
Non, t'as dit 4-3 Indiana, oui, excuse-moi. Non, écoute...
Passer la question, c'est qui va se faire détruire par Boston en finale de conférence ? qui va aller à l'abattoir ?
Moi je préférerais que ce soit New York, donc je vais dire New York, voilà. Je trouve que l'histoire est plus sympa, la franchise est plus sympa.
C'est vrai qu'Indiana c'est pas très funky. Hein.
Pas très funky.
Ouais, mais tu te dis que...
Avec leur t-shirt, boom baby,
ouais,
que Indiana-Boston, tu pourras avoir un semblant de série. Moi j'ai peur que si les Knicks passent, ça va être 4 boucheries, quoi.
Aussi, non ?
Ils ont au moins un peu plus de joueurs pour essayer de faire quelque chose, quoi.
Ali Burton, vous le mettez dans quelle catégorie de joueurs actuellement, là ?
Ali Burton, derrière Kyrie Irving.
Ouais. Oui. C'est-à-dire derrière un All-Star sur la jante, quoi. C'est la troisième catégorie.
C'est les playoffs.
Non, mais il est plus à son prime, non, quand même, Kyrie Irving, non ?
Pardon ?
Par rapport à ce qu'il était
à Cleveland.
Mais je crois
que la question arriverait plus tard.
Oui, on va en parler tout de suite.
Mec.
Ah, il va nous dire que c'est la meilleure version de Kyrie Irving à Dallas, Steve. Mais pourquoi pas, hein. Moi, je t'écoute, il n'y a pas de souci. Tu le mets où, Ali Burton, là, aujourd'hui?
Top meneur, concrètement. Mais pour moi, il mérite sa place pour aller au JO avec la Team USA, donc top meneur.
Arnaud.
Top 5 meneur de la Ligue, oui. Ouais. Même s'il a eu un gros coup après le All-Star break. Mais
là, ça revient
là,
bien.
Un super bon joueur.
Bon, juste un mot de l'autre demi de conférence Est. On a l'impression que ça peut être Boston qui décide qui gagne. Le jour où ils n'ont pas envie, bon, ils leur laissent. Et puis quand
alors, t'es dur, parce que moi, j'ai fait le match hier et je peux te dire que les Cavs ont très bien joué au basket, sauf qu'il n'y a pas Donovan Mitchell, mec.
Oui, il n'y a pas de Donovan Mitchell.
Mais c'était hier, ça, c'est le match 4.
Mais ils prennent le match 2.
Tout en étant d'accord, à leur max, il n'y a pas de match. Donc, alors, je veux bien qu'il n'y a pas de Donovan Mitchell.
Mais il n'y a pas Jarrett Allen depuis le début. Moi, je pense que tu enlèves Mobley. Tu mets Mobley et tu mets Jarrett Allen. Quand il n'y a pas Porzingis, c'est pas la même. Donc
les blessures si tu mets Porzingis avec les 6, tu mets Porzingis avec les 7.
Ah oui, bah alors Porzingis est quand même plus souvent blessé que les deux que tu viens de citer quand même.
Alors, ils ont fait des saisons.
Fred a raison de dire que Cleveland, ils sont très honnêtes, ils sont très.
Ils
vont au bout de ce qu'ils peuvent, là ils sont trop limités quand t'as deux absents. Mais. Je vois où Pierrot veut en venir, c'est que Boston, de temps en temps, ils ont tendance à se caresser.
J'ai l'impression que quand ils appuient sur l'accélérateur, ils reprennent le dessus dans le match.
Oui, mais le problème, c'est que cette saison, parfois, ils ont eu tendance à prendre à démarrer les matchs peinards et se faire attraper. Donc, ils ont pris les mauvaises habitudes, je trouve.
En saison régulière où ils sont devant largement,
je sais pas trop contre Atlanta.
Parce que normalement, si Boston est très sérieux, c'est 4-0 Miami, 4-0 Cleveland.
Et il y a ce match 2, chez eux, à chaque fois, ils ont perdu l'avantage du terrain qu'ils ont récupéré. Juste derrière, mais ils avaient perdu le match 2 contre Miami. Après, le match 2.
Après, ils ont de la marche sur les.
Exactement. Mais sur cette suffisance, je vous rejoins.
Ils jouent à 4.
Oui.
Cleveland, il leur manque leurs deux joueurs majeurs.
Ils ont joué personne.
Tu demandes à voir encore.
Je demande à voir en finale.
Okay.
Après, ils en finale, évidemment.
Après, ils vont jouer en finale. Imagine, ils jouent les Knicks en finale de conf.
Une équipe sur la série contre Cleveland. Je disais ça.
Contre Cleveland, je pense qu'ils pourraient jouer avec un œil de verre, une jambe de bois, ils gagneraient quand même.
Un œil de verre, une jambe de bois.
Alors, la question, est-ce que c'est du même côté
Si
c'est du même côté, ça peut être chiant quand même. Hein.
Même côté.
Basket Time spécial demi-finale de conférence. Votre rendez-vous basket du mardi à télécharger sur rmc.fr. On passe à l'Ouest.
Forces a late contest. That's a big time offensive play by Kyrie Irving, but it's a play he's made his entire life.
Kyrie Irving, j'ai les handles. 24 t'entends Jack détonné. Il me faut un jet et deux yachts. Patek ou Gold détonna. 2-6-7 équipe d'or qui pour la.
Est-ce que vous connaissez ce jeune rappeur français? Je suis sûr que Fred il connaît.
Mais bien sûr, il vient de Limoges.
Osiris Jack.
Il vient de Limoges, Osiris.
Il vient de Limoges. Ouais. Il se passe des trucs à Limoges.
Je m'en prie par une mamie.
Alors, à l'Ouest, on a deux séries très indécises. Ouais, tu connais pas ?
Mais ça sort d'où, ça ?
Bah, c'est un mec qui a fait un texte sur Kyrie Irving. On pouvait pas passer à côté de ça,
bravo,
quand même.
Bravo, Osiris.
Bah, bravo.
C'est un rapport avec Eric Dimeco. C'est une reprise de Osiris.
Vous connaissez pas Oju ? C'est son nom sur lequel il est plus connu.
Non.
Oju. Il y a OJ et il y a Oju.
Et il y a Jul.
Bon, Jul, c'est un autre délire encore, Arnaud. Focus sur Dallas au KC et donc sur un joueur en particulier qui sera forcément déterminant pour l'issue de cette série, c'est Kyrie Irving. La question la suivante, Kyrie Irving est-il toujours un crack de la Ligue ? Kyrie Irving, il a connu des hauts et des bas. Ça a été peut-être... Alors certains le décrivent comme le meilleur meneur de l'histoire, le meilleur ball handler de l'histoire, carrément.
Je pense que c'est le cas.
Donc on parle d'un très grand joueur, d'un immense joueur. Est-il toujours cet immense joueur actuellement ? On ne va pas démarrer avec Stephen, qui nous a fait un magnifique teasing. On va démarrer avec toi, Fred.
Ponctuellement.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a des éclairs
toujours
de génie.
Toujours les réponses de Suisse.
Le lundi, oui. Le mercredi,
Alors concrètement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que sur certains matchs, tu vois un mec qui est un magicien, qui va te faire des trucs que personne ne peut faire, parce qu'on l'a dit, c'est le meilleur ball handler de la Ligue.
Tu penses ? De l'histoire ?
De l'histoire, je pense, oui.
Ouais.
Alan Iverson qui n'était pas dégueu. Il y avait des joueurs comme ça. Isaiah Thomas qui n'était pas dégueu non plus. Mais lui, il est au-dessus encore. Et concrètement... Quand il a ce coup de génie, personne ne peut l'arrêter. Il est imprévisible,
encore
il est magique,
là.
Il est magnifique. Oui. Sauf que pour moi, il est encore plus irrégulier qu'avant. Mm-hmm. Et il suffit de regarder cette série. Hein. Un coup, il met 22, mm-hmm. un coup, il met 9. Mm-hmm. Un coup, il met 20, un coup, il met 9.
Mm-hmm.
Donc, tu n'as plus la même stabilité mais que tu as pu avoir avant.
Peut-être qu'en jouant à côté de Doncic, il n'a pas toujours besoin d'être
Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Sauf que ça, c'est peut-être. Tu présumes de ça. Je peux pas présumer de ça, moi. Je ne sais pas. Je me réfère aux faits. Les faits, c'est qu'un match, il met 20, un match, il met 9. Donc, ça veut dire que, pour moi, il est moins stable et moins régulier qu'il a pu l'être. Mais par contre, ses coups de génie existent toujours, évidemment.
Je pense quand même que c'est pas facile de cohabiter avec un Luka Doncic, même si on a tous envie de jouer avec un mec aussi fort.
Évidemment. Mais ils avaient trouvé une sorte de façon de jouer ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, Luka Doncic se tapait les trois premiers cartons. En gros, hein, je schématise volontairement.
La question que je pose, si tu veux, c'est quand il a des variations de perf, est-ce que c'est dû à lui ou est-ce que c'est dû à l'utilisation du ballon que fait Doncic ?
Mais c'est ce que je te dis, comme je n'ai pas la réponse, je me réfère qu'aux statistiques. Et les statistiques me disent qu'il y a des variations
mais
de perf.
Mais tu vois, en tout cas, par moment, ou même dans des séquences longues comme la durée d'un match, le Kyrie Irving prime.
Bah bien sûr, sans aucun problème. Il est merveilleux parfois. Il y a des fois, on est obligé de s'arrêter, on regarde. Même quand tu commentes le match, parfois, tu sais pas quoi dire parce que c'est phénoménal ce qu'il
prévoit. C'est de la magie.
C'est de la magie.
Ok. Arnaud ?
Moi, je pense qu'on a toujours un Kyrie très fort. Si c'était un joueur qui doutait énormément, généralement, je parle sous votre contrôle, même si vous n'étiez pas des guards.
Des ballonneurs, d'ailleurs, je ne sais pas de quoi.
Ou des ballonneurs. Quand tu es en doute et que tu es moins bien, tu as tendance à plus faire de tirs extérieurs et pas trop aller driver, attaquer. Et je vois toujours un Kyrie aussi fin dans sa finition.
Après, le petit lay-up main gauche, il l'avait, Steve, quand même. Pas déconner.
Il n'y a pas 3 points, ouais.
Donc, tu ressens quand même toujours ce toucher magnifique sur Kyrie. Oui, tu peux dire que c'est peut-être moins régulier qu'avant, mais dans un système à Dallas un peu plus particulier, la cohabitation avec Luka. Alors, c'est vrai que cette nuit, il passe totalement au travers, comme Luka Doncic. Je crois que c'est 11 points en deuxième mi-temps, les deux hein, cumulés. Donc, mais je trouve encore que Kyrie est largement au niveau. Et si Dallas a tapé les Clippers et toujours dans une position très intéressante face au Thunder, égalité de partout, c'est grâce à Kyrie. Moi, je vois pas trop de débat sur le fait de dire qu'il est plus là. Hein.
Dallas, PG Washington, il faut pas oublier non plus
la part de PG Washington. C'est l'homme de sa vie.
Ouais. Non, mais aujourd'hui, les joueurs qui sont dans la lumière en NBA, c'est pas Kyrie Irving. Tu peux le reconnaître, Arnaud.
Ah oui,
c'est pour
totalement.
Ça que la question se pose. Mais c'est pas le premier mec à qui tu penses quand tu penses aux stars de la NBA aujourd'hui. Quoi.
Parce qu'il est dans l'ombre d'une comète aussi, donc c'est compliqué aussi de briller.
Mais moi, souvenez-vous des débats qu'on avait fait quand il a signé à Dallas. On se demandait si vraiment c'était une bonne idée de les associer, si ça allait fonctionner.
C'est vrai.
Bon, c'est que ça marche pas trop mal quand même.
Ça marche plus qu'à Phoenix, l'association.
L'année dernière, il joue 20 matchs. Bon, ça va pas très bien. Après, il balance la fin parce qu'ils veulent pas faire le play-in. Alors, le timing est pas bon. Le timing du débat est pas bon parce que hier, je crois, enfin, dans la nuit de lundi à mardi, c'est peut-être son pire match de la saison avec les Mavs. Mais je vais considérer ça comme un accident. Pour moi, Kyrie aujourd'hui, c'est dans la même boîte que Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Brunson, Tharisa Liberton et Luka Doncic. Voilà. Pourquoi on n'en parle pas ? Parce que vous l'avez dit, il joue à Dallas et qu'il y a un mec qui prend toute la lumière, qui est meilleur marqueur de la ligue, qui est Luka Doncic. Mais moi, Kyrie Irving, j'ai vu beaucoup de matchs cette année. Mec, c'est une poésie en fait. C'est une chorégraphie.
Il n'y a pas cette irrégularité dont parle.
En playoff, oui, contre Casey, mais sur la saison régulière, il est quand même plutôt très régulier au scoring. Il a 26 points de moyenne. 26 points de moyenne, vous vous rendez compte ce que c'est ? Ça fait pas, ça te met tout là-haut avec des pourcentages.
Ça compte plus en playoff le problème.
Je suis d'accord. En playoff, il a mis 40 contre les Clippers.
Oui, mais c'est ça que je dis. Il a des pertes parfois fantastiques oui. Et il peut redescendre assez rapidement.
En saison régulière, je l'ai trouvé très régulier. Il a plus de 40% à 3 points. Mec, tu le vois jouer.
Alors, les pourcentages sont un fou pour
voir. Oui, tu me parlais de Jason Tatum qui est beau avoir joué. Kyrie Irving, écoute-moi bien, c'est une chorégraphie de danse classique, mec, c'est Black Swan. Il met des paniers, il met des lay-ups, tu sais pas comment il fait, il reste 3 heures en l'air, tout est beau. Ouais. Donc quand Kyrie Irving joue au basket, il a la clutchitude dans le sang parce que dans le money time, il met des tirs de l'au-delà. Je pense que pour moi, il a mis le panier de la saison, c'est ce mi-crochet, mi-caillou contre Denver, contre Nikola Jokic pour la gagne en saison régulière. Les stats et les pourcentages sont fantastiques. Moi, je vois pas. Ben pour moi, Kyrie, c'est au-dessus de Damien Lillard. C'est au-dessus de. Enfin, cette saison, hein, c'est au-dessus de Damien Lillard. C'est au-dessus de Steph Curry. C'est au-dessus de Tyrese Maxey. C'est au-dessus de Trae Young. Moi, pour moi, il fait partie des meilleurs meneurs de la ligue encore. Mais
Maxey,
dans l'ombre.
Maxey, je sais pas si je te rejoins. Vraiment. Ah je sais pas. Je pense qu'il y a débat sur Maxey.
Après, Maxey a souvent été dans la lumière parce que Joel Embiid a été absent et blessé. Donc, Maxey avait les clés de la boutique que n'a jamais eu Kyrie cette saison.
C'est assez bon.
Mais je vous jure que regardez Kyrie Irving et regardez la saison qu'il fait. Alors, il passe sous les radars. Sa réputation est écornée avec des phrases un peu étranges, avec ses délires.
Mais calmé.
Mais moi, je trouve que si on se concentre uniquement sur le joueur de basket, Kyrie, c'est exceptionnel.
Ce qui est très rare, voire presque inédit, chez un guard d'une telle qualité qui joue autant de ballons, c'est des pourcentages. L'adresse, il est quasiment à 50%. Ce qui a été son fil rouge toute sa carrière, c'est assez exceptionnel parce que généralement, quand t'es guard en NBA, bon, bah, t'es à 45%, t'es pas à 50% comme les en intérieur. Et il y a quand même quelque chose qui est intéressant sur cette série, c'est le plus-minus. Kyrie, il est 3 fois dans le positif, une fois dans le négatif. Il est dans le négatif lors du match 1, il a moins 15 quand il est sur le terrain, mais là sur les 3 dernières sorties, donc où il y a eu 2 victoires de Dallas, plus 9, plus 11, et même hier, en jouant 40 minutes et en faisant une deuxième mi-temps offensivement assez pauvre du point de vue du scoring,
il a plus 4. Plus. Il prend que 11 tirs.
Oui, mais quand il est sur le terrain, il fait peur à tout le monde aussi.
Oui.
Il a cet avantage de monopoliser l'attention.
Donc s'il était, tu vois, si négatif que ça, il n'aurait pas un plus-minus aussi.
Non, mais moi,
du coup, il est efficace dans quoi quand c'est pas au scoring c'est quoi son apport?
Déjà, l'attraction. C'est-à-dire que quand tu as Kyrie Irving sur le terrain, tu peux pas dire je fais l'impasse sur lui. Donc forcément, tu es plus près de lui, tu laisses plus d'espace derrière. Défensivement, tu es obligé d'être collé, tu peux pas aller aider. Le joueur de Kyrie Irving, il va pas faire la prise à deux sur Luka Doncic. Hein. Mm. Il va rester sur lui. Donc,
et cette année, combien de fois il a relancé des matchs pour les Mavs où les Mavs étaient derrière et c'est lui qui fait les séries de 10, 12 points à la suite, du 3 points en transition. Et là, il y a un problème, Luka Doncic. Il est cramé comme chaque fin de saison. Et en plus de ça, je pense qu'il est blessé, il a mal au genou. Hier, il fait un match. Il est minable. Hein. Hier, Luka Doncic, il avance pas. Et c'est à Kyrie. Pour moi, Kyrie, depuis le début des playoffs, je vais le répéter encore une fois, c'était le meilleur joueur face aux Clippers.
C'est le baromètre.
Pour moi, c'est le meilleur joueur de Dallas sur les playoffs.
Est-ce qu'il a cette capacité?
C'est dur que je te dise ça, Fred. Mais...
Ouais, c'est dur que tu me dises ça quand même.
Est-ce que vous le voyez donc être l'homme prépondérant pour qualifier Dallas en finale de conf?
Mais il te faut un lieutenant.
Est-ce que vous le voyez lui endosser ce rôle-là? Est-ce que vous voyez Dallas passer ce tour?
Mais c'est son rôle déjà. Il n'a pas besoin de l'endosser.
Mais
c'est son rôle par
définition. Est-ce qu'il va le faire?
Mais oui, parce que
c'est la question.
Je parle d'irrégularité, mais c'est quand même irrégularité au top niveau. C'est-à-dire qu'en gros, il est soit fantastique, soit très bon.
Non, mais ce que je veux dire,
il
c'est que
jamais,
ça peut...
Il est jamais mauvais,
ça
en fait.
Ça peut être Doncic, l'homme pas, qui fait basculer la série. Ça peut être Shai, ça peut être je ne sais qui encore.
Ah, Jalen Brown. Basculer la série. Shai, la série, il la joue magistralement.
Il est presque tout seul, c'est ça
d'une régularité. Hier, Chatham Graham est très bon dans le monitor.
Jalen Williams, je ne sais pas.
Il est un petit peu en travers, mais Shai, je ne sais pas s'il peut monter plus haut. Il peut éventuellement, mais là, il fait une série exceptionnelle. Pour moi, qui peut faire la diff?
Pour l'instant, c'est lui.
Pour moi, c'est Kyrie qui fait la diff, qui doit faire la diff sur cette série.
D'accord. Et il va la faire, tu penses?
Je sais pas. PG Washington joue un basket. Oh,
mais c'est ce genre de facteur X qui sont importants.
Oui, oui, mais...
Parce
mais
que tu n'attends pas à ça.
Non.
Il va pas... Un match, il a été le meilleur score de son équipe.
Oui.
27
il a marqué
points.
Autant de points que Luka sur la série.
Mais c'est complètement dingue.
Il n'y a pas une grosse rotation non plus à Dallas. Il y a quoi, deux ou trois joueurs, quoi. Qui sortent du banc.
Tim Hardaway, Derek Lively,
Josh Green.
Moi, je suis déçu de Tim Hardaway parce que je pensais que lui, il pourrait être le leader de cette seconde unité.
Finalement,
PG
Washington a pris plus de responsabilités que Hardaway.
Et
ce qui est marrant, c'est que les Mavs perdent le match 4 alors qu'ils auraient dû le gagner pour les lancers francs. Je crois qu'ils font 12 sur 23 lancers francs et dans le money time, ils n'en mettent pas un.
Surtout, ils mènent de 10 tout le match. Et ils se font reprendre sur un déficit d'adresse.
Et Lucas qui fait un sur deux à la fin pour éventuellement emmener le match en prolongation. Ce qui est marrant, c'est que le match d'avant, il y avait du hack Lively. Il faisait faute sur le grand Lively qui courait partout. Il sortait du terrain pour pas se faire toucher. Il a été très bon au lancer franc. Et hier, ils ont arrêté ça.
Il est bon dans la raquette, Lively. Hein.
C'est un rookie. Hein. Ouais, ouais. Il va être bon, ce garçon.
On dit un mot de l'autre série. Minnesota, incroyable, qui a dilapidé son avantage de deux victoires à l'extérieur. Cette série, elle est illisible. Évidemment, Denver a repris la main parce qu'ils ont repris l'avantage du terrain, mais c'est surtout qu'il y a un Jokic qui est inarrêtable.
Non, elle est très lisible cette série.
Comment tu la lis?
Très facilement. Minnesota a trouvé des armes pour arrêter Denver.
Ils sont adaptés.
D'accord. Et Mike Malone, c'est un grand coach et il s'est adapté.
Est-ce que c'est Mike Malone ou c'est ce que Nikola Jokic qui s'est adapté?
Nikola Jokic, il a été bon tout le temps. Sauf que maintenant, quand tu regardes vraiment, tu regardes les actions de Denver, c'est que avant, tu faisais un drive. Kick et ça chutait direct. Sauf que maintenant, tu fais une extra passe supplémentaire. À chaque fois, tu vises le milieu de la raquette pour fixer tout le monde et tu ressors des ballons. Et en plus, quand tu as un Aaron Gordon qui te met les shoots à 3 points, bah forcément, ça te donne un vrai avantage. Pour moi, il n'y a plus de débat.
Il n'y a plus de débat.
Il y a 4-2 pour Denver.
4-2.
Moi, je ne vois pas Denver perdre 3 matchs de suite chez eux contre cette équipe-là.
Non, ça peut aller en 7.
Je sais pas. Par contre, il y a grand respect à Anthony Edwards qui assume tête haute le match face à Denver. Il n'est pas passé à côté d'une rencontre. Anthony Edwards, il a été fantastique. Mais Fred a raison de dire que Denver, sur les premières rencontres, ils jouaient quasiment de la première intention. Donc Gobert, Karl Anthony Towns étaient installés dans la raquette et ils n'arrivaient pas. Là, ils font plus travailler les mecs. Gobert est obligé de sortir à un moment donné, de donner une première aide défensive. Donc il y a des retards défensifs et l'accès au cercle est plus ouvert et plus facile. Donc crédit à Mike Malone qui a sûrement donné ce conseil.
Et la patience
aussi.
La patience de Denver. Oui. Parce qu'avant, tu faisais une extra passe au maximum. Là, parfois, on a vu 3 ou 4 extra passes.
Ils refusent des premières intentions de tir ouvert pour aller un peu plus loin dans le jeu.
Régulièrement, ils étaient en dessous. Offensivement sur les deux premiers matchs de la série, ils mettent moins de 100 points.
Parce qu'ils étaient trop en frontal. Et ça marche pas contre Minnesota.
Effectivement, si tu arrives à marquer plus de 110 points face à Minnesota pour Denver, dont on connaît la qualité de l'attaque, c'est très compliqué. Donc j'attends quand même de voir le match 5 pour me dire est-ce que c'est vraiment plié ou pas.
Après,
au-delà de l'aspect tactique, il y a une action qui fait très très mal au crâne dans le match 4 qui était plus serré que le match 3 quand même. C'est l'action juste avant la mi-temps où Denver met un panier à 2 secondes de la fin. Ils veulent jouer vite, interception et panier à 3 points du milieu du terrain de Jamal Murray. C'est-à-dire qu'ils prennent, moins 5 ouais. à 2 secondes de la fin. Il y a quand même des tournants
tête,
ouais. et ça, ça fait très mal quand même.
Oui, mais
ça fait
mal. Du jeu.
Bien sûr, non, mais je ne dis pas, c'est juste pour revenir sur les faits importants.
C'est qu'il y a toujours des moments bascules dans un match.
Et Jamal Murray, c'est quand même un joueur exceptionnel. Lui aussi,
il tire du milieu de terrain et tout le monde est tout fou, sauf un mec. Jokic s'en fout. Tu l'as vu ou pas?
Il va
On est donc sur un spécial demi-finale de conférence et on va passer à la partie historique en reparlant de New York.
Quarter for John Starks, a team high 12.
Oh, what a play by Oakley.
Oakley sees Bonner, he loves to run. Followed by Starks.
Alors cette équipe 2024 de New York, vous en avez beaucoup parlé tout à l'heure, vous allez maintenant nous rafraîchir la mémoire avec une des plus belles ou une des pires équipes des Knicks de l'histoire, une qui a marqué votre mémoire. On va démarrer avec toi Fred, l'équipe de 98-99 que les fans des Knicks bien sûr connaissent par cœur, mais moins le grand public, c'est l'équipe de Latrell Sprewell.
Oui, alors par contre, c'est pas l'équipe de 98-99, parce qu'il faut recontextualiser, on est dans la 50e saison NBA, d'accord ? Mais il y a un lockout. C'est-à-dire qu'on commence la saison le 18 janvier 99. Et cette saison sera raccourcie. Ce sera une saison de seulement 50 matchs. Mm-hmm. Et en début de saison, justement, enfin en pré-saison, il y a des changements dans cette équipe. La Latrell Sprewell arrive, tu l'as dit, en échange de John Starks, mm-hmm. la star de New York. Donc forcément, ça gronde un peu parce qu'il faut se rappeler que la Latrell Sprewell, il a quand même essayé d'étrangler son coach. Mm-hmm. Donc c'est un peu un bad boy, sa réputation n'est pas ouf. Et j'avoue que du côté de New York, on flippe un peu. Je te raconterai une anecdote juste après, d'ailleurs, par rapport à ça. Et il y a aussi Marcus Camby qui arrive à la place de Charles Oakley. Alors, saison compliquée, saison de renouvellement, parce que c'est deux joueurs majeurs qui s'en vont et qui sont remplacés. Et on finit cette saison à seulement 50 matchs, à 27 victoires, 23 défaites. D'accord ? Donc, tu sens que parfois, il y a vraiment de la qualité dans cette équipe, et parfois, tu sens que ça manque de travail. Ça finit 8e de la saison. Donc, tu dis, Fred, pourquoi tu nous parles d'une saison où ça termine 8e ? Sauf que ils vont entamer les playoffs, ils vont affronter le Heat. Et le Heat, ça va être hyper serré, mais à l'époque, c'est en 3 victoires. Mm-hmm. Donc au meilleur des 5 matchs. Et ils vont gagner contre le Heat, avec un panier de Allen Houston, quasiment à la dernière seconde, sur le match 5. Donc déjà, l'histoire commence à être belle. Tu bats le premier. C'est la deuxième fois de l'histoire.
Miami avec qui, là, dans cette équipe ?
Miami, il y a Alonzo Mourning, par exemple, déjà. Mm-hmm. Donc l'équipe est plutôt pas mal. Ils finissent premier à l'Est. Donc concrètement, c'est une équipe qui a le vent en poupe et ça joue très sérieusement. Et Allen Houston, comme je dis, met ce panier à la dernière seconde, quasiment, qui pousse les Knicks à passer le tour. Ils affrontent les Atlanta Hawks. Atlanta Hawks, il y a Dikembe Mutombo. Mais ils font la saison et la série la pire au pourcentage de réussite de l'histoire.
Atlanta.
C'est un truc fou parce que, évidemment, cette équipe de New York se base beaucoup sur la défense avec Jeff Van Gundy à la tête de ça.
Et Marcus Camby, qui est un défenseur exceptionnel.
Bien sûr, non, mais tout le monde défend très bien. Mais c'est vrai que Van Gundy demande à ses joueurs d'avoir cette assise défensive. Et Ewing se blesse alors. Tendon d'Achille, rupture partielle du tendon d'Achille, donc il arrête là. Et là, ils vont affronter Indiana, Reggie Miller. Et là aussi, ça se passe très bien pour eux, parce qu'ils vont gagner 4-2. Et on se rappelle surtout de ce match 3 où Larry Johnson met un panier à 3 points plus la faute, qui permet de gagner ce match et qui permet à New York d'avancer encore. Et ils vont après se retrouver contre les Spurs, et là, il y a Duncan Robinson. Ils seront sans Larry Johnson qui sera blessé, ils seront sans Patrick Ewing, et ils vont prendre un 4-1, et donc voilà. Sauf que, quand on pense à cette équipe, pourquoi je dis que c'est la meilleure ? Déjà parce que c'est une performance incroyable, c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe classée 8e arrive en finale NBA, donc ça n'était jamais arrivé, et dans cette équipe, il y avait 2-3 joueurs plutôt corrects. Allen Houston, Latrell Sprewell, Marcus Camby, Larry Johnson, Pat Ewing, et il y avait aussi Rick Brunson, le papa.
Le père.
Donc voilà, équipe fantastique qui nous faisait plaisir à voir jouer. Juste pour la petite anecdote.
Il n'y avait pas le cousin de John Stark, Philippe, par contre.
Non, il n'y avait pas Philippe.
C'est juste pour Steve.
Il a refait la déco du Garden.
Et donc, juste après ça, ils ont les droits du 15e choix de la draft 99 et ils vont drafter
Fred Veil.
Moi.
Flatteur, Fred.
Et alors, oui, sauf que déjà, moi, il y a plein de choses, donc je n'y vais pas. Mais en plus, une des raisons pour laquelle je n'y vais pas, c'est parce que l'Atlas Pruel avait étranglé son coach. Et moi, je venais de Limoges, j'ai un peu flippé, je dois avouer.
Ça, tu t'es dit, je vais arriver dans un truc qui me dépasse.
C'est dans la jungle, quoi.
Donc, après, il n'a pas étranglé un coéquipier.
Ouais, c'est sûr.
Steve, la plus grande équipe des Knicks.
92-93, une des deux seules équipes des Knicks à avoir gagné 60 matchs sur une saison régulière, ce qui est énorme. C'était la deuxième saison de Pat Riley sur le banc des Knicks, la saison d'avant, défaite au deuxième tour des playoffs face à Jordan. Et l'objectif de cette saison, c'est bien sûr taper Jordan, sa majesté, et l'équipe de Phil Jackson. Ils draftent Hubert Davis, le shooter de North Carolina. Ils récupèrent Rolando Blackman et Tony Campbell, qui était un mec à 20 points de moyenne dans la plus mauvaise équipe de la ligue, les Minnesota Timberwolves. Une équipe, c'est Patrick Ewing, c'est John Starks, Anthony Mason, Charles Oakley, Charles Smith. On n'est pas sur une équipe de poètes, je le dis tout de suite. On est sur une équipe de boucher charcutier, meilleure défense de la ligue. C'est l'équipe qui laisse les plus petits pourcentages aux équipes adverses. C'est l'équipe qui va faire le meilleur bilan all-time au Garden, 37 victoires, 4 défaites sur cette saison. Et donc on arrive en play-off, avantage du terrain jusqu'au bout, puisque c'est le meilleur bilan de la ligue. Premier tour, ça tape Indiana 3-1, le même format qu'à l'époque, au meilleur des 5 manches. Deuxième demi-finale, ça bat Charlotte 4-1. Et nous voilà en finale de conf contre les Bulls avec l'avantage du terrain. Match 1, c'est victoire 98-90 avec un énorme John Starks. Match 2, nouvelle victoire. Les Knicks mènent 2-0 contre les Bulls. Victoire 96-91 avec une action légendaire. John Starks se dunk sur la ligne de fond, main gauche sur Horace Grant et Michael Jordan. On part à Chicago. Match 3, victoire facile des Bulls de 20 points malgré un petit match de Jordan, 3/18. Oui, suffisamment rare pour le souligner.
Jojo
pouvait passer à côté des matchs. 2-1 pour les Knicks.
Le match suivant, il a dû leur mettre
le match suivant, match 54 points de Jordan sur la meilleure défense de la ligue. De partout, on arrive match 5 au Madison Square Garden. Patrick Ewing fait un match exceptionnel, 33 points, mais ce match, c'est le raté d'un homme, Charles Smith, qui a le ballon sous le cercle à plus 1 pour les Knicks. Premier layup contré. Il récupère. Deuxième layup, contré. Il récupère. Troisième layup, contré. Il récupère. Quatrième layup, contré par Scottie Pippen. Contre-attaque, tac. Layup de B.J. Armstrong. Game over. Les Bulls s'imposent au Garden et met fin à la série fantastique de 27 matchs gagnés de suite à domicile. Ça fait le 3-2 pour les Bulls. Vous imaginez bien que le match 6 à Chicago, il n'y a pas photo. Les Bulls plient l'affaire à la maison. Et donc, les Knicks sont éliminé en finale de conf.
La légende de Jordan s'écrit aussi dans des matchs comme ça, sur des actions où il n'est pas là forcément. Parce
exactement.
Que c'est pas lui qui défend, il y a Pippen.
Pippen qui met deux contre, il y a Horace Grant qui met un contre, et Jordan qui dévie des tirs de Charles Smith. Il est quand même là en défense. Je te rappelle que Jordan était plusieurs fois meilleur défenseur de la ligue.
Quelle est la plus belle des deux équipes des Knicks là, dont vous nous avez parlé là, Steve?
Franchement, il y a match.
Je vois Steve.
T'as entendu les noms que j'ai cités? Il est fou, ce mec.
J'ai pas demandé à Arnaud, parce qu'Arnaud, il a choisi de nous parler d'une équipe dégueulasse des Knicks.
Mais voilà, donc tu vois, il a pas de goût, donc ne lui demande pas laquelle des deux il préfère.
Le fiasco Phil Jackson en 2014-2015.
Si Stephen a choisi une équipe qui avait gagné plus de 60 matchs, moi j'avais le choix entre deux équipes qui ont perdu 60 matchs. Il y a les Knicks 2018-2019. Je vais vous faire juste le 5 majeur, parce que j'ai choisi ceux de 2014-2015 en effet, mais en 2018-2019, Kevin Knox, Damien Dotson, Noah Vonleh, Emmanuel Mudiay et Tim Hardaway Jr.
Ouais, ça valait pas le coup qu'on se perde du temps.
Donc voilà, à la rigueur, c'est logique que cette équipe fasse que 17 victoires.
T'as oublié de dire Dave Fisdale comme coach.
Oui, 17 victoires pour ces deux équipes. C'est la pire saison de l'histoire des Knicks, donc 2014-2015. Le contexte, Phil Jackson arrive, non pas sur le banc, mais en tant que président de la franchise, 60 millions sur 5 ans. James Dolan, le propriétaire, sort le gros chéquier, se dit que Phil, qui s'était fait sweeper par les Mavs 3 ou 4 ans avant, c'est l'homme de la situation. Il arrive dans un contexte où Mike Woodson sort d'une saison à 37 victoires. Il rate les playoffs 9e à l'Est, sachant que l'année d'avant, Mike Woodson avait fait 54 victoires et une demi-finale de conf. Mais Mike Woodson, il joue pas avec le triangle, donc Phil Jackson décide de le bazarder. Ses chantiers à l'intersaison, on prolonge Carmelo Anthony, 5 ans, 124 millions de dollars.
Correct.
C'est le troisième salaire derrière Kobe et Joe Johnson d'Atlanta à l'époque. Son effectif, il y a Stoudemire, il est là, Andrea Bargnani qu'ils avaient fait venir un an auparavant. Il y a un trade qui est fait notamment assez tôt, c'est se débarrasser de Tyson Chandler qui avait signé quelques années en avant en provenance de Dallas, sauf qu'on renvoie Tyson Chandler à Dallas en compagnie de Raymond Felton pour faire venir José Calderón, Samuel
D'Alembert. C'est vrai qu'il a joué à New York celui-là.
et il récupère quand même Samuel Dalembert, Shane Larkin et Wayne Ellington. Bon, voilà, dans cette équipe on rajoute Ayman Schumpert, Quincy Acey et Cole Aldridge, et Jason Smith un intérieur, J.R. Smith aussi, sauf qu'en fait ça va être totalement catastrophique. En décembre ils sont à 4 victoires pour 20 défaites. On décide de commencer plus ou moins à bazarder en disant bah, J.R. Smith et Ayman Schumpert vous allez aux Cavs. Ils ont pratiquement rien récupéré derrière. Ils sont ensuite à 5 victoires et 30 défaites. Bref, c'est absolument immonde à voir jouer, mais il faut que ça prenne du temps. Phil Jackson commence à faire des déclarations. Oui, mais il y a un problème un petit peu de cette équipe qui n'arrive pas, qui a du mal à s'y faire à la discipline, avec les règles, sous-entendant que voilà, Carmelo et ses petits copains ne bossent pas assez. Carmelo, lui, qui fait une saison à 24 points, mais il a mal au genou. Donc, au mois de février, au revoir Carmelo, tu vas te faire opérer. Fini donc la saison. Stoudemire a 31 ans, il sort du banc, on trouve pas sa place. Est-ce qu'il est rôti ou pas? 12 points, 7 rebonds. On verra, finalement, l'avenir nous aura dit, parce qu'il a pris sa retraite 2 ans après, qu'il était quand même sur la jante. Monsieur Stat, c'était son surnom. Bref, bilan de 17 victoires, 65 défaites. En plus, ils n'auront pas le numéro 1 le choix numéro 1 de la draft, qui sera Carl Anthony Towns. Bon, le numéro 4, ils ont drafté Kristaps Porzingis derrière, mais au final, c'était les prémices d'une ère Phil Jackson absolument catastrophique, puisqu'il va virer Mike Hudson virer Derek Fisher, qui n'avait aucune expérience. Oui, parce j'étais un peu dans tous les sens. C'est Derek Fisher à les coach, qui sortait de zéro expérience. Il fallait mettre le triangle, donc il voulait absolument un joueur qui connaissait
c'était,
ça.
C'était son meneur aux Lakers.
C'était son meneur aux Lakers, mais sans aucune expérience du coaching, et finalement ça va mal se terminer. Phil Jackson viré en 2017 après des dramas entre Carmelo Anthony et Kristaps Porzingis.
Ça fait de la peine pour Carmelo, tout ça. Il méritait mieux quand même, non? Il me regarde pas comme ça, Fred, c'est
les
bon. Les
champions olympiques, c'est bien déjà.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Ouais, mais tellement de saisons en échec.
Un petit peu responsable.
Pose-toi les bonnes questions.
Oui, pose-toi les bonnes questions si tu veux. Mais moi, je l'aime bien, Carmelo. C'est
après,
tout,
c'est quoi. Pas tant sur cette saison-là qu'il est honteux parce qu'il joue blessé. Mais ça illustre aussi son passage finalement.
C'est l'Enix, c'est une franchise difficile. Hein. Franchise délicate, l'Enix.
Oui, ça c'est vrai.
Mais quand ça marche, par contre, c'est magnifique comme en ce moment.
Exactement. Nous allons terminer par le quiz, hein, messieurs. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille. Tournerai en rond, et là, on va pas tourner en rond. Est-ce que vous êtes prêts?
Coco Kukoc,
absolument. Alors là, vous mobilisez vos neurones.
Non, faites pas les paysans, t'es un mec de début de Chaumont, toi.
Je pense que deux filles contre les vampires.
Et voilà, exactement. T'es pas un esthète du visage, qu'est-ce que c'est ton problème?
Un esthète du visage.
Je vous la refais. Mon premier est l'esthéticienne des bronzés.
C'est Christian, l'esthéticienne, c'est Christian Wood.
Ça fait longtemps que j'ai pas fait une charade, tiens. Il y en a pas cette semaine.
Y'a pas de thème là, tu nous as pas dit le thème.
Non, c'est l'actu des playoffs.
Ah, c'est pêle-mêle quoi.
C'est pêle-mêle, ouais, exactement.
C'est un club boulga.
Bon, après, je suis pas allé chercher très loin, mais normalement, ça va être facile, à quelques exceptions près. Je dis bien à quelques exceptions près.
Tant qu'il n'y a pas de George Orwell.
Il n'y a pas de question culture générale. On va démarrer par une question de rapidité, a priori, si vous suivez bien les playoffs, ce qui est le cas. Première question, qui est actuellement Brunson. Le meilleur passeur de ces playoffs?
Haliburton.
Non, ni l'un ni l'autre.
Le meilleur quoi?
Passeur, avec une moyenne de 9,1 passes
LeBron.
Par match. LeBron est deuxième avec 8,8.
Ah, mais c'est vrai que ça commence à se des mecs éliminés.
C'est un mec éliminé ou pas?
Et c'est un mec qui est toujours en course, toujours en lice.
Chez
Murray?
Non. Non.
Jokic.
Ah bah oui, Nikola Jokic est le meilleur passeur des playoffs. C'est fou quand
j'ai
même.
Buggy,
non, non. T'as bugué, tu
j'ai
savais.
Pas dit un nom. Ouais. Non, j'ai pas dit un nom.
Là, tu vas pas pouvoir bugger, puisque nous allons faire un vrai faux. Vrai ou faux sur Anthony Edwards. C'est parti un peu vite, donc c'est pas grave, c'était la dernière question, mais on va démarrer par la dernière. C'est pas grave, on va les faire pas dans l'ordre.
Ça n'a pas d'ordre
de toute façon. Oui, c'est un rapport avec la question. Alors, Anthony Edwards, Steve, ouais. Vrai ou faux, il est en couple avec la sœur de Nicki Minaj.
Ouais, c'est vrai.
C'est faux. Il écoute du Nicki Minaj avant chaque match.
Et il fait le minage aussi.
Il écoute du Nicki Minaj avant chaque match. On passe à Arnaud. Arnaud, il joue au bowling tous les jours à un niveau quasi professionnel. Anthony Edwards.
C'est faux.
C'est vrai. Oh. Il joue au bowling depuis la fac.
Il est complètement cinglé, mais comment tu veux inventer cette histoire?
J'ai lu des papiers sur Anthony Edwards.
Ça pourrait être son inventer. Père, tu vois, et qu'il se dit qu'il fasse le raccourci.
Fred, Anthony Edwards partage son lit chaque nuit avec son bulldog Ant Junior.
Évidemment.
Évidemment, c'est vrai. Il est complètement dingue des chiens. Il a un clébard qu'il a appelé comme lui, Ant.
Logique.
Ant Junior.
Bah, moi, je préférais partager mon lit avec la sœur de Nicki Minaj plutôt qu'avec ce bulldog.
On peut refaire les dans un autre sens, si tu veux, on repasse ça à Steve. Il porte le numéro 5, car dans sa jeunesse, il a perdu sa mère et sa grand-mère un 5 du mois.
C'est moins marrant que Nicki Minaj.
C'est moins marrant que Nicki Minaj, en effet.
Il a perdu sa mère et sa grand-mère. Hein. C'est le 5 du mois, c'est ça serait vraiment, vraiment une très mauvaise coïncidence, mais je vais dire vrai.
C'est vrai, et c'est l'anecdote la plus connue sur Anthony Edwards hors basket.
Bah,
les deux sont mortes d'un cancer le 5 du mois, et donc il a choisi le numéro 5. Et donc ça fait un point pour tout le monde, mais il y a une question de retard pour Arnaud et pour Fred. Arnaud, Anthony Edwards est un dingue de junk food. Il mange jusqu'à 3 paquets de frites d'apéritif par jour.
Je crois que c'est vrai.
C'est vrai. Et la marque, c'est les Chester's Hot Fries.
C'est quoi des frites d'apéritif?
Tu sais, c'est des frites.
Séchées, tu vois, les petites allumettes.
C'est
dégueulasse. Ouais, ça, exactement. C'est dégueulasse.
C'est immonde.
Il en raffole, il en bouffe 3 paquets par jour.
Et il a un mètre 20 d'étente comme ça, ou
Hot Fries.
C'est incroyable.
Là, il va falloir arrêter un jour ou l'autre.
Je crois qu'il y avait des diététiciens de ouf.
Mais écoute, il est comme ça, lui. Et enfin, Fred, Anthony n'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Devante, comme tu le sais. Il se fait appeler Anthony depuis ses 12 ans, car fan de Carmelo Anthony. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
C'est faux.
C'est faux. Son joueur préféré, c'était Kevin Durant.
Ouais, ça,
et ça, tu le savais, tu vois, comme quoi.
Mais oui, mais en plus, ils sont joués à la vidéoconférence quand ils ont joué.
Donc, Phoenix. Fred, 2 points, Arnaud, 2 points, et Steve, 1 point. Une déclaration, vous devez trouver l'auteur, d'accord, dans ces playoffs. Voici la phrase. 52%, c'est inacceptable.
Luka Doncic.
Luka Doncic, absolument, la nuit dernière, sur cette faillite au lancer, même lui, il en a raté un très important. Et alors, est-ce que c'est PJ Washington, est-ce qu'il veut rater le lancer qui est réussi à la fin?
Je pense, mais c'est que ça arrive beaucoup, des mecs qui veulent rater le lancer, ils tapent fort la planche.
Il a besoin de prendre le rebond offensif. Ouais. On est d'accord, non?
Ouais.
Il a essayé de le rater, il n'a pas réussi. Ouais. Ça fait 2 points pour tout le monde. Ah tiens, là on va voir si vraiment vous suivez les matchs jusqu'au bout et jusqu'à l'après-match. Je vais vous passer une séquence.
Conférence de presse?
Non, de réaction d'après-match sur le parquet. Sur le parquet, après, donc, après la victoire d'OKC. Vous m'expliquez ce qui se passe dans cette séquence.
Il y a toute l'équipe autour du micro et pas tout le monde parle. 3-1, we'll see you guys for game 5 on Wednesday. So appreciate
it. Go ahead, take it away. Alors c'est Shai qui répond et il y a un chien effectivement. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Il y a un mec qui fait le dog là, l'underdog. Waf waf, non, c'est pas ça.
C'est Jalen Williams qui aboie.
C'est Jalen Williams qui aboie et pourquoi il aboie?
Parce que c'est un ouf.
Il y a une raison particulière.
Mais il avait déjà aboyant déjà quelqu'un et il le fait.
Alors c'est pour rendre hommage à un de ses coéquipiers.
Et c'est son chien, c'est son
dog. Lou Dort.
Non.
Anthony Edwards.
Non.
Pourquoi Anthony Edwards il joue pas au
Casey? Kenton Gwen.
Non.
Guidi.
Kayson Wallace. Parce que c'est un défenseur. Il défend comme un chien, Kayson Wallace.
Ouais, mais là, je pense que tu peux me l'accorder quand même. Hein.
Non, ouais, si.
J'accorde à Fred, allez, c'est bon, je t'accorde le point. Kayson Wallace, un mot?
Oui, il défend comme un chien.
Ouais, par contre,
c'est un rookie, c'est ça?
Ok, si, il va y avoir un problème à un moment donné, parce que là, dans les mock drafts, ils sont prévus 11 ou 12, ils vont drafter normalement un Wallace. Et donc, ça va faire 4 ou 5 Wallace de l'équipe, et il va y avoir un problème à un moment donné, faut qu'ils arrêtent leur connerie.
Voilà,
Donc, ça fait 3 points pour Fred qui prend la main. Alors, je vais vous faire deviner un joueur qui participe à ces playoffs, ok? Un joueur non drafté.
Qui participe?
Il joue, il est dans ses
playoffs.
Je vais pas vous donner trop d'indices. Donc, c'est un joueur non drafté qui a démarré sa carrière aux Chicago Bulls. Un joueur qui était parti pour faire une carrière quelconque, mais qui se révèle sur le tard. Il a 28 ans, là.
Vincenzo.
Qui a dit Strus?
Moi.
C'est la bonne réponse. Max Strus. Ses stats cette saison, c'est 12 points, 5 rebonds, 4 passes.
Eric fait un gros match, hein. 15 points, 7 rebonds, 7 passes, je crois.
Un joueur qui fait des beaux playoffs, quand même, non?
Alors, non. Mais non, qui était bon sur le dernier match.
Moi, il était meilleur l'année dernière avec Miami.
Mais
par contre,
Miami...
à l'école, il avait toujours ses stylos. Non, ça se trousse.
4 points pour Fred, 2 points pour Arnaud, 2 points pour Steve. 1 point pour la vanne?
Non.
Non, ok. Alors, vous allez répondre à chacun votre tour à une question. Et donc, c'est Steve, le mauvais élève, qui démarre. Lors de la victoire d'OKC hier à Dallas, quel est le seul starter d'OKC à moins de 10 points?
Le seul star, c'est Josh Giddey.
Ouais. Exactement.
Et il joue que 12 minutes. Ouais. Par contre, lui, ça devient chaud pour lui. Il
commence à disparaître.
Pourtant, joueur qui était hyper important.
Il pourrait se reconvertir chez Waze.
Pour vous guider.
Point à 2 sur 8. Arnaud, quel est le starter des Mavs, le seul starter des Mavs à moins de 10 points? toujours sur le même
hier,
match.
Hier, bah c'est Kyrie.
Exactement. C'est le seul starter à moins de 10 points. Comme quoi, les équipes ont quand même des armes offensives très diverses, très différentes. Plus difficile pour toi, Fred, lors de la victoire de Denver à Minnesota lors du match 4.
Ok.
Tu l'as, c'est bon. Quel est le seul joueur du banc des Nuggets à moins de 10 points? Ils sont 3. Il y en a un seul qui a mis moins de 10 points.
Brown?
Non, c'est Reggie Jackson. 6 points en 9 minutes seulement à 2 sur 4. Justin Holiday, 11 points en 19 minutes. Et Chris Brown, 11 points en 25 minutes. Ils n'ont pas un gros banc, mais un banc qui est très important quand même.
Ben, quand ils sont bons, ça les aide beaucoup, effectivement.
Alors, on est sur 4 points pour Fred, 3 points pour Arnaud et 3 points pour Sif. On approche de la fin. La nuit dernière, quel joueur a intégré le top 20 des meilleurs contreurs de l'histoire des playoffs?
Le top 20 des meilleurs quoi?
Contreurs de l'histoire des playoffs, la nuit dernière.
DeAndre Jordan. DeAndre Jordan.
Aucun des trois.
C'est un extérieur.
Aaron Gordon.
Tatum.
C'est un intérieur.
Horford.
Horford. Ah ouais. 216e contre. Il passe devant Alonzo Mourning. Et donc, pour la question multipoint, vous allez aux enchères me proposer de me donner un maximum de noms.
Des contrats.
Dans ce top 20, hors Horford, bien sûr. Donc il y en a 19. Steve, tu fais la première enchère.
Les playoffs, les meilleurs contrats de l'histoire des playoffs.
L'histoire des playoffs.
Bon, je sais pas, je veux dire 8.
8.
Alors que j'en ai 0 en tête. Hein,
mais... ouais, comme ça j'en ai 0 aussi, mais.
Si t'as pas le droit à l'erreur, évidemment, sinon c'est trop
facile. Je réfléchirai si j'ai la main.
Arnaud, tu le montes.
Je vais laisser, non?
Tu laisses? 8. Fred.
9,
il y va, Fred, il connaît ses
contrats. Non, je vais tenter 10.
Tu montes à 10, mais t'as raison, parce qu'il y a plein de gens connus. Le seul problème, c'est qu'il y a certains, tu peux les donner, ils ne sont pas dans le top 20. Exemple, Alonzo Mourning que je viens de citer.
Ouais, qui est 21e maintenant.
Exactement. on est à 10, c'est ce qu'on monte. Fred, il les connaît, il a envie.
Mais en fait, les contreurs, normalement, je les connais, mais c'est chaud quand même. 11,
bravo Fred. T'as déjà gagné quelque chose avec cette enchère, je vais t'expliquer quoi.
Il faut que j'aille chercher la gagne.
Ouais.
Je vais dire 12.
Tu vas dire 12. Tu montes ?
Non, je suis là.
Alors, étant donné que tu as fait une meilleure enchère que Arnaud, si Steve chute, c'est toi qui gagne le quiz. Ok ? On est d'accord ?
Oh, ils sont à égalité, les deux ?
Ouais, ils sont à égalité. De toute façon, il n'y a qu'un point d'écart. Donc, Steve, si tu as les 12 des 19 meilleurs rebondeurs de l'histoire des playoffs, prends ton temps.
Je vais prendre mon temps. Shaquille O'Neal,
il est quatrième avec 450.
Je n'ai pas peur comme ça, d'entrée de jeu. David Robinson.
Il est cinquième avec 312.
Tim Duncan,
c'est le premier. Alors, incroyable, la stat, elle est incroyable. 568 contre.
Il a joué des 3 minutes de playoff.
Oui, mais il a presque 100 contre de plus que le deuxième. Ouais. C'est quand même chaud. Hein. Donc, Tim Duncan, c'est bon. T'es à 3, là. Il était loin encore du compte.
Hakim Olajuwon,
très bon. C'est le troisième.
Ah, c'est pas le deuxième?
Non, c'est pas le deuxième.
Je pensais que c'était le deuxième.
Dikembe Mutombo, il est 11e de cette classement.
Il me fait peur.
Ouais, j'avoue, chaque fois.
T'arrives bientôt à la moitié, là.
Comme il s'appelle le big man là, qui a joué au Knicks, Marcus Camby,
je pense, n'a pas joué suffisamment de playoffs, de campagne de playoffs. Pourtant, c'était une machine à compter.
LeBron, il est dans tous les classements, non?
Alors, LeBron, il est 10e. Bravo, Fred. Ensuite, il y a le 2e quand même. Vous allez me le trouver, celui-là, t'aurais dû le dire.
Rodman?
Non, c'est pas Rodman. Rodman n'est pas dans ce classement.
Pat Ewing,
il est dans ce classement, mais il est 7e. Le 2e, c'est Kareem Abdul-Jabbar, bien sûr.
Ah oui.
Après, on a Robert Parrish. On a Serge Ibaka.
J'aurais pas trouvé.
Non. Elle trouvait Kevin McHale. LeBron, je vous ai dit non, il y est, bien sûr.
Non, je l'ai pas dit, t'as dit 10e, t'as dit.
LeBron, on l'a déjà dit, excusez-moi. Ben Wallace. Après, on a Dwight Howard, Julius Erving, Pau Gasol, Roberto Horry, Rashid Wallace, Caldwell Jones et Elvin Hayes.
C'est pas si simple.
Non. C'est dur. Ah, surtout qu'à 12, c'était compliqué. À 8, t'aurais pu y aller, je pense. Bravo Fred, t'as gagné ce quiz. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.